It's Morning Edition from NPR News.
France Inter. Le 18-20.
Macron médiateur, donc, aujourd'hui à Moscou, demain à Kiev. Est-ce que c'est un coup diplomatique? Quels sont les risques? Est-ce que Vladimir Poutine gagne du temps, nous emmène nulle part? Est-ce que c'est par là que passe la sortie de crise? On y vient tout de suite. Le bruit du monde, ce soir, troque ses habits habituels pour laisser la place aux électeurs d'ailleurs, de Caroline Gillet, qui un lundi sur deux nous fait vivre des élections à venir grâce aux notes vocales envoyées par des électeurs anonymes. Ce soir, ces notes vocales nous font voyager jusqu'en Corée du Sud. Le bruit du monde, la suite et le rendez-vous traditionnel cette fois de Sébastien Logénie qui, sous les radars, a trouvé une nouvelle drogue dévastatrice en Sierra Leone, de la crypto-monnaie détournée qui remplit les poches nucléaires de la Corée du Nord et une série japonaise qui mêle politique et médias. Ça cartonne sur Netflix et c'est japonais à 18h50. C'est l'Amérique de Joe Biden, signé Sébastien Paour. Et puis 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four qui nous permettra de boucler la boucle peut-être au moins pour ce soir, en tout cas, Russie et Ukraine. À la fin, nous dira Jean-Marc, est-ce que c'est pas toujours la Chine qui gagne? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Thomas Gomard.
Bonsoir Fabienne Synthèse.
Directeur de l'Institut français des relations internationales. Vous avez notamment écrit « Guerre invisible, nos prochains défis géopolitiques » chez Talendier. C'était l'année dernière. On va évidemment parler de fond. Je voudrais quand même qu'on parle un tout petit peu de forme, vous et moi, parce que tout le monde s'amuse en ce moment, jaune souvent, de cette immense table, l'un et l'autre, à chaque bout de cette immense table, dans une pièce d'une froideur glaciale. Est-ce que ça nous dit des choses, cette mise en scène, quand même? Qu'est-ce que ça nous dit, selon vous?
Bah, disons que Vladimir Poutine n'est pas réputé pour mettre à l'aise ses interlocuteurs. Jadis, lorsqu'il avait reçu pour la première fois Angela Merkel, il l'avait reçu avec son chien, sachant qu'elle avait une phobie des chiens précisément. Bon, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer les choses, c'est-à-dire que c'est le dispositif qu'utilise le Kremlin en termes de distanciation sociale, pour reprendre les termes de la mode. Il a reçu dans le même dispositif le président iranien ou le Premier ministre Orban. Mais c'est vrai que ça donne une impression de mise en scène de la distance, précisément.
On verra si ça se traduit dans les faits. Comment vous la lisez, vous, cette séquence, Thomas Gomard? Est-ce que c'est Vladimir Poutine qui a laissé une porte entrouverte dans laquelle Emmanuel Macron s'engouffre? Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a mis le pied dans une porte pour tâcher de casser le dialogue qui n'était que entre les Russes et les Américains? Bref, qui fait un coup, là, cet après-midi?
Bon, je crois que c'est une séquence diplomatique critique. Et en ce sens, on est dans ce qu'on appelle, dans le jargon, de la gestion de crise. Et effectivement, le président Macron utilise deux choses, à la fois le dialogue qu'il a noué non sans difficulté avec Vladimir Poutine depuis son élection de 2017, reprenant d'ailleurs le fil que les présidents français ont toujours eu avec le président russe. Et puis, il utilise de manière différente de l'utilisation qui avait été faite en 2008 par Nicolas Sarkozy, le fait de présider non pas l'Union européenne, mais le Conseil de l'UE, c'est-à-dire que effectivement il semble vouloir parler au nom des Européens, avec l'impression que jusqu'à présent c'était surtout entre Vladimir Poutine et Joe Biden que les choses importantes se négociaient. Il y a une image importante à retenir néanmoins, c'est que l'avion présidentiel est arrivé avec deux drapeaux. On a eu ces débats au début de l'année sur le drapeau européen. C'est pas le drapeau européen qui était agité, mais le drapeau français et le drapeau russe. Et les deux présidents, d'ailleurs, se sont référés au rétablissement des relations diplomatiques entre la France et la Fédération de Russie. Autrement dit, sont rentrés dans la discussion par la porte strictement bilatérale à ce stade.
Donc on ne rentre pas effectivement pour l'instant par la porte européenne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une visite parallèle qui se fait avec Olaf Scholz qui est aux États-Unis pour l'instant. Ils vont chacun tourner, si on peut dire. Il y a eu Orban à un moment, il y a eu une initiative des Européens, du Parlement européen, qui est allé lui à Kiev. Donc on sent bien qu'il y a une espèce d'ensemble européen, mais au fond pas d'ensemble européen dans cette histoire.
Alors il y a très clairement de la part du président Macron, et d'ailleurs ça s'est apparu dans les premiers mots qui ont été retransmises de sa discussion avec Vladimir Poutine, un effort très sérieux de coordination avec les Européens. Le premier nom qu'il a cité est le nom du président Zelensky, puisque demain, comme vous le savez, il va se rendre à Kiev. Mm-hmm. Je signale au passage que c'est la première visite présidentielle française en Ukraine, et c'est un point très important depuis plus de 20 ans. Mm-hmm. Hein, comme si, au fond, Kiev n'existait pas dans la géographie d'un certain nombre de présidents de la République française. Donc ça, c'est un point, à mon avis, très important. Il a ensuite indiqué qu'il se coordonnait avec l'ensemble des capitales européennes. Il a cité les alliés en disant les Britanniques, mm-hmm. les Américains et les Canadiens. Mm-hmm. Il y a un lobby ukrainien très important au Canada. Autrement dit, je pense qu'il y a une volonté chez le président Macron à la fois de prendre le leadership et en même temps de le faire en ayant bien soin de prévenir l'ensemble des protagonistes.
Est-ce qu'il y a une vraie relation particulière, cela dit, parce que vous l'avez dit, on est dans la continuité de ce qui se passe depuis 5 ans avec Vladimir Poutine, mais au fond, si on compte les points, on se dit que pour l'instant, c'est plutôt Vladimir Poutine qui a gagné des points. Je pense il y a eu Versailles en 2017, il y a eu Brégançon en 2019, enfin, Dieu sait qu'il y a eu des avancées de ce genre, mais est-ce que ça a vraiment jamais marché? Pas vraiment, ou à moins que je me trompe.
Ce qui est frappant, si vous voulez, c'est effectivement le tutoiement. Hein, le vouvoiement existe en russe, donc le tutoiement, ce qui donne une impression de proximité. Il est certain que le président Macron...
Je vous interromps, parce qu'on a entendu Macron tutoyer Vladimir Poutine. On est sûr qu'il a renvoyé un tutoiement,
oui.
Poutine ? D'accord, ok.
Ensuite, si vous voulez, il est tout à fait évident que Emmanuel Macron a cherché à nouer une relation personnelle avec Vladimir Poutine. L'inverse est beaucoup moins vrai.
Oui.
C'est-à-dire que ça donne un peu l'impression d'efforts sans cesse répétés avec un président russe qui voit à l'heure actuelle, qui a accaparé l'agenda international et qui voit au fond, j'allais dire peut-être de manière un peu trop rapide, mais le monde entier défiler à Moscou.
Voilà.
Et en ce sens, il y a effectivement un risque d'instrumentalisation des efforts de la diplomatie française et aussi le risque de très bien comprendre que Emmanuel Macron est à la recherche d'un succès diplomatique. Et d'ailleurs, il a eu une formule intéressante la semaine dernière, Emmanuel Macron, en disant qu'il annoncerait sa candidature une fois le pic de la crise ukrainienne passé. C'est évidemment quelque chose qui n'est pas passé inaperçu à Moscou et qui met d'une certaine manière la pression du temps beaucoup plus sur Paris que sur Moscou.
Le maître des horloges, hein. Donc c'est Vladimir Poutine, selon l'expression favorite d'Emmanuel Macron. Le maître des... Il a tout intérêt à faire durer, non?
Alors il y a deux Vladimir dimensions. Poutine. Je crois qu'il faut effectivement distinguer la séquence diplomatique critique dans laquelle on est, c'est-à-dire qui nous intéresse en premier lieu à Paris avec Moscou et Kiev demain, et ensuite une séquence beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'effectivement Vladimir Poutine peut tout à fait maintenir cette pression plusieurs mois, c'est-à-dire qu'il maîtrise l'escalade. Le fait qu'il amasse des troupes est un élément parmi d'autres sur lesquels on pourra revenir. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement une pression du temps qui est beaucoup plus fortement ressentie du côté occidental que du côté russe.
Chacun a prévenu évidemment que ça prendrait du temps. Tout le monde a bien fait attention de dire de toute façon, on ne va pas repartir avec quelque chose dans notre besace. Vladimir Poutine a même utilisé l'expression trop complexe pour que quelque chose puisse avancer maintenant. Cela dit, quand même, qu'est-ce qu'il a dans sa besace, Emmanuel Macron, là ? Qu'est-ce qu'il peut offrir ? Comment ça se joue ? Est-ce que le simple fait d'entendre à un moment prochainement, oui, le format Normandie tient, et on se reverra en format Normandie, c'est-à-dire les Allemands, les Français, les Ukrainiens, les Russes, est-ce que ça, c'est au moins une forme de victoire ? Est-ce qu'on dit ça comme ça ou pas ?
Je ne parlerai pas de victoire, c'est, si vous voulez, il faut distinguer différents niveaux. Il y a effectivement le niveau du format Normandie, les conseillers diplomatiques se sont réunis la semaine dernière, ce qui a marqué effectivement une forme de progrès. Ensuite, on sait que la mise en œuvre des accords de Minsk est bloquée pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est la relation structurelle et son évolution souhaitée par Moscou entre la Russie et l'OTAN. Et puis, je crois qu'il y a un troisième niveau qu'on voit moins côté français et même côté européen. C'est tout simplement une question vision liée au contrôle de l'Eurasie. C'est une vision beaucoup plus globale et qui passe par l'accélération du rapprochement entre la Chine et la Russie, qui s'est notamment exprimée la semaine dernière par au JO, par cette déclaration sino-russe, qui montre en fait la volonté et de Moscou et de Pékin de modifier les équilibres globaux et notamment de donner beaucoup plus de poids à une organisation très peu connue en Europe qui s'appelle l'Organisation de coopération de Shanghai, dans laquelle siègent également l'Iran et l'Inde, pour au fond montrer que les équilibres généraux sont désormais en défaveur de l'Occident. Et je crois qu'il faut du coup essayer, quand on analyse les choses, de garder à l'esprit ces trois niveaux et ne pas être uniquement focalisé sur la simple question de Minsk.
Mais du coup,
En
fonction de ce que vous dites, Thomas Gomard, en quoi Poutine aurait-il intérêt à montrer une forme de désescalade au moment où on se parle ? Quel serait son intérêt de le faire là maintenant ?
Il peut y avoir un intérêt tactique qui est de gagner du temps pour en termes de préparatifs. Ça, c'est sur un pur plan militaire, c'est une chose de masser 125 000 hommes, c'en est une autre de les faire monter en puissance. Les choses ne se font pas forcément en quelques jours. Ensuite, je pense que l'autre intérêt, c'est d'escompter des approches différentes entre occidentaux. C'est-à-dire qu'on le voit, même si l'unité et la coordination est un souci permanent de la diplomatie française, on voit que les tonalités de réaction sont différentes entre Londres, Berlin, Rome, Varsovie, par exemple.
Donc, essayer de désunir ce front, c'est
une constante de la diplomatie russe, si vous voulez, c'est évidemment de jouer sur ces différentes tonalités. Et puis, il ne faut jamais oublier que dans le prolongement de la diplomatie soviétique, la diplomatie russe de Vladimir Poutine et même celle de son prédécesseur Boris Yeltsin à certains égards, a toujours consisté à vouloir affaiblir, voire rompre le lien transatlantique. Et donc, à partir du moment où les États-Unis semblent moins intéressés en Europe, à être moins intéressés, et l'effet paradoxal de cette situation, c'est qu'ils sont en train un peu de se réengager, que ça redonne une certaine jeunesse à l'OTAN, ce que provoque Vladimir Poutine. Mais il y a un souci chez Vladimir Poutine, c'est au fond de réinventer une sorte de concert européen. Cette idée que les États-Unis n'ont pas grand-chose à faire sur le continent européen, et que le concert européen est la forme naturelle. Vous savez, le concert européen, c'est cette notion qu'on utilisait à la fin du 19e siècle pour décrire les relations entre capitales européennes, ce qui mécaniquement place toujours la Russie en position de force par rapport aux autres capitales européennes. Et je crois que c'est ce à quoi il voudrait revenir tout en resserrant sa relation avec Pékin.
Et en même temps, et c'est ce que disent beaucoup d'observateurs, il a remis les États-Unis dans le jeu de l'Europe, en fait, qui effectivement, comme vous le disiez, était plutôt en train de regarder du côté de l'Asie et notamment de la Chine. Donc, est-ce que là-dessus, il a perdu, en fait? Est-ce qu'il a perdu des points là-dessus? Ou est-ce qu'au contraire, au fond, il en a gagné parce qu'il impose sa stratégie, il impose son agenda en ce moment?
Alors, c'est ce qui est paradoxal, effectivement, dans sa démarche. Je crois que pour la Russie, le degré de retour d'importance sur la scène internationale auquel s'emploie Vladimir Poutine depuis 2000, se juge fondamentalement à l'importance qui est accordée à la Russie par Washington. C'est-à-dire que ce qui a irrité au plus haut point le Kremlin, c'est quand Obama a qualifié la Russie de puissance régionale. C'était au fond la provocation ultime. Donc vous avez cette dimension-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça redevient un sujet à Washington, la Russie se considère comme une puissance globale et, ce faisant, se distingue des autres puissances européennes. Et c'est paradoxal parce que effectivement, ça maintient d'une certaine manière psychologiquement les Américains présents en Europe, et ça redonne, comme je l'indiquais, une jeunesse à l'OTAN, puisque des pays neutres comme la Suède ou la Finlande se sentent aujourd'hui dans une situation qui les conduit à se rapprocher.
Et mieux protégé par l'OTAN que par l'Europe, et ils l'ont même dit de manière assez explicite. On sait bien que la relation privilégiée en Europe avec Poutine, c'était plutôt celle d'Angela Merkel, pour un tas de raisons que l'on connaît. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui ont changé, c'est le moins qu'on puisse dire. La coalition est tout à fait différente, elle est un peu bancale, y compris sur ces questions. Et on a l'impression qu'Olaf Scholz est un peu assis sur le siège passager, comme disent les Américains dans leur expression. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'au fond, l'interlocuteur, le nouvel interlocuteur de Poutine, c'est plus Emmanuel Macron aujourd'hui aujourd'hui? Est-ce qu'il faut qu'il gagne d'autres lettres de noblesse, Olaf Scholz?
Il y a plusieurs éléments. D'abord, effectivement, vous avez une coalition qui est tiraillée sur ce dossier comme sur d'autres. Vous avez ensuite une chancelière qui a quitté le pouvoir après 16 ans. Et donc qui était russophone, qui était une Allemande de l'Est, et qui avait trouvé une sorte de d'équidistance entre Washington, Pékin et Moscou, qui effectivement lui donnait un poids certain, poids d'ailleurs que Emmanuel Macron avait utilisé, puisque il y avait eu un certain nombre d'exercices où Angela Merkel et Emmanuel Macron avaient notamment reçu le président chinois pour montrer dans une volonté un peu d'avoir une relation plus équilibrée. Quant à Scholz, il a ses contradictions internes, et puis il a un autre problème, c'est que le SPD historiquement est très lié à la politique dite d'Auspolitik, c'est-à-dire favorable à la Russie, que l'ancien chancelier Schröder, comme vous le savez, s'est distingué par son lobbying en faveur des intérêts russes, et en particulier ceux de Gazprom, ce qui le met probablement dans une situation délicate. Et ce qui est intéressant dans la séquence actuelle, c'est que Vladimir Poutine exerce sa pression au moment où la nouvelle coalition allemande fait ses premier pas, et au moment où la France est en campagne présidentielle, avec l'ensemble des candidats appelant à un dialogue resserré avec Moscou.
Et on a bien entendu, effectivement, et ce que vous nous disiez, l'un des messages d'Emmanuel Macron derrière, c'est de dire à l'intérieur, attendez-moi, j'ai d'autres chats à fouetter, je suis en train d'essayer de régler la marche du monde. Néanmoins, du coup, puisque ça ira si lentement, comme vous le dites, est-ce qu'il y a un échec possible pour Emmanuel Macron, ou est-ce que ce simple message-là suffit de toute façon à poser l'image qu'il entendait poser?
Non, il prend un risque important.
Même à court terme.
Bien sûr, il suffit de voir la manière dont Joseph Borrell a été traité à Moscou en mars 2021, pour voir ce qu'une conférence de presse peut provoquer comme effet négatif. Donc c'est pas du tout un voyage facile. Le voyage de demain en Ukraine n'est pas facile non plus. Il prend l'initiative, c'est dans son style. Et donc quand on prend un risque, ça peut effectivement produire des effets positifs, mais ça peut aussi échouer.
Joseph Borrell, que vous citiez, qui dit à l'instant « L'Europe vit le moment le plus dangereux pour sa sécurité depuis la fin de la guerre froide ». Est-ce que vous diriez qu'on est dans ce moment-là, ou est-ce qu'on est là encore dans la guerre verbale qu'il y a entre les Européens, les Russes et les Ukrainiens?
Moi, je pense qu'on est dans un moment de ce qu'on appelle une guerre politique. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons, sauf pour l'instant la force cinétique, pour modifier le comportement de son adversaire. Et c'est ce que la Russie arrive à faire, c'est-à-dire qu'il y a la concentration des forces à la frontière ukrainienne, mais vous avez aussi beaucoup de cyberattaques actuellement. Vous avez des manœuvres dans l'espace exo-atmosphérique. Vous avez Wagner au Mali. Oui. Autrement dit, la pression est exercée sur les Européens, effectivement, beaucoup plus que sur la Russie.
On attend la sortie, si je puis dire, et puis la suite de la visite qui va se passer à Kiev demain. C'est une histoire à plusieurs bandes, en effet. Merci beaucoup, Thomas Gomard. Merci vraiment de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20. Fabienne Saintès sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le rendez-vous de Caroline Gillier et ses notes vocales. Les électeurs d'ailleurs nous emmènent ce soir en Corée du Sud. Vous entendrez les messages qu'a reçu Caroline de jeunes Coréens qui votent, eux, le mois prochain. Et puis la troupe qui nous emmène jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logénie.
Nous irons au Sierra Leone, ravagé par la misère et par une nouvelle drogue qui inquiète les services psychiatriques du pays.
Le Monde selon Joe Biden et Sébastien Pao. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne. Est-ce que Mike Pence va tenter d'aller défier son ancien patron?
Le Monde d'après, Jean-Marc Four. Bonsoir à vous, Jean-Marc.
Bonsoir à tous. On va essayer de compléter ce que vous venez de dire avec Thomas Gomard, en se demandant si ce n'est pas la Chine qui va tirer les marrons du feu de cette séquence internationale sur l'Ukraine.
Allez, à tout de suite. Tout le monde, le tour de la planète, ce n'est pas fini. Il passe par la Grande-Bretagne avec Pete Doherty, The Fantasy Life of Poetry and Crime. C'est sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
Bells, they chime. Bells, they chime in time to a vicious low whine of a chainsaw's grind. In the summertime, there's a coppery taste, a gun in your face. High planes drift, slice shape shift across the maritime. In the
history. There's a clue to find in the fantasy life, poetry and crime. Hold Normandy and Saint Maritime in the fantasy life, poetry and crime.
On est lundi, Caroline Gillet a reçu des notes vocales. Et bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
Un lundi sur deux avec vos électeurs d'ailleurs, les vies de ceux qui votent comme nous dans les prochaines semaines et qui vous racontent leurs espoirs, leurs doutes, leur système aussi, en vous envoyant donc des petites notes avec leur téléphone. Il y a 15 jours, grâce à vous, on a fait connaissance
Christina.
Avec Christina au Costa Rica, qui a voté hier.
Oui, tout à fait. Elle a envoyé des nouvelles.
Et ben voilà,
ça s'est bien passé.
On aura l'occasion de la réécouter, c'est sûr. Et ce soir, vous nous présentez JCO, c'est comme
oui,
ça qu'on prononce.
Oui.
Il est en Corée du Sud et il nous raconte des élections qui sont prévues dans un mois.
C'est ça. Jay, il a bientôt 40 ans, il travaille à Séoul. Il était en vacances la semaine dernière pour le Nouvel An coréen. Alors, il a d'abord fait un tour dans le sud à Busan, où il a enregistré le bruit des vagues, et aussi sur la digue, cet homme qui, dit-il, chantait les yeux fermés. Et puis Jay a rejoint ses parents et sa sœur pas loin dans la maison familiale. Et l'avantage des sons WhatsApp, c'est que ça peut être très intime. Quand je lui ai écrit cet après-midi-là, il était déjà à minuit chez lui et il était au lit.
Ma mère et ma petite sœur dorment dans le salon. Moi, je dors dans le lit de ma maman avec ma couverture là remontée jusqu'à la poitrine.
Alors, ouais, Jay ne parle pas trop fort parce que sa mère dort à côté. Sa sœur, elle, elle regarde des séries. Je lui ai demandé s'il pouvait aller enregistrer.
On appelle ça les dramas, avec un mélange en fait d'histoires d'amour très compliquées, pas mal d'histoires aussi un petit peu caricaturales, mais de riches méchants et de pauvres en fait très gentils qui essayent de s'en sortir et puis qui se vengent, et puis avec des histoires d'amour étriquées, etc.
Et ça, ça nous amène à parler des élections à venir. Ces questions d'inégalité, elles sont centrales dans la campagne. Le président sortant du Parti démocrate a, durant son mandat, étendu l'assurance maladie, augmenté le salaire minimum. En face et au coude à coude, il y a le People Power Party, plus libéral et conservateur. Mais pour Jay, à vrai dire, en fait, c'est assez vague la politique coréenne. Là, on l'entend à un dîner de famille.
Et c'est pour ça qu'il est assez content de revenir en famille.
Oui, parce qu'il connaît pas tout ça, il connaît très mal la politique. Et là, ça lui permet, en retrouvant ses parents, de leur poser plein de questions. En fait, toute la famille a passé plusieurs décennies en banlieue de Grenoble avant de revenir vivre et travailler en Corée.
Le paradoxe que j'ai, moi, c'est qu'ayant grandi en France, je suis évidemment beaucoup plus au fait des dynamiques et des enjeux politiques en France, là où je n'ai pas le droit de vote. J'ai le droit de voter ici en Corée du Sud, mais j'ai cette méconnaissance des enjeux politiques qui parfois me rendent un petit peu inconfortable. En Corée, le sujet de l'écologie n'est pas encore un sujet fort dans la société. Il n'y a pas en fait un gros questionnement sur l'identité. Il n'y a pas des problématiques liées à l'immigration. comme c'est une péninsule coupée au nord par la frontière avec la Corée du Nord, en fait, il n'y a pas de frontière terrestre par laquelle tu peux entrer dans le pays de toute façon. Après, malgré tout, je pense que la Corée, pour maintenir en fait son développement économique, va devoir faire appel à une immigration, parce que tout simplement la population est très vieillissante, que les Coréens ne font pas beaucoup d'enfants.
Alors le lendemain, c'est le 1er février et c'est le nouvel an en Corée. Et la tradition, c'est de se retrouver avec la famille élargie sur les tombes des ancêtres. Dans le cas de Jae, elles sont creusées pas loin d'un temple sur une montagne.
C'est une montagne qui est assez particulière parce qu'elle donne sur une sorte de grande vallée avec un bassin d'eau qui sert aussi de barrage hydraulique. Et donc la tradition familiale veut qu'on vienne partager un moment entre nous, mais aussi avec les nôtres qui sont partis. Puis on a une sorte de petite cérémonie pendant laquelle on se prosterne devant eux, on allume de l'encens, ce qui va attirer en fait leur esprit à venir partager un moment avec nous. Et donc ça nous arrive aussi, évidemment, de parler de sujets qui sont sociétales et politiques. Mes tontons qui sont occupés de cet endroit-là ont eu la bonne et mauvaise idée de bâtir une pancarte avec notre arbre généalogique. Moi, par exemple, je suis la 23e génération. Et en fait, ils ont eu alors la bonne idée de créer cette pancarte, mais la mauvaise idée de ne pas y inclure en fait les femmes de notre famille. Parce que c'est vrai que comme c'est une société très patriarcale, la Corée, on a l'habitude de compter les lignées uniquement du côté du papa. Et on voit clairement en fait la différence de génération entre les tontons qui considèrent que bon, ça s'est toujours fait comme ça, donc on fait comme ça, et puis d'un point de vue logistique, ce serait contraignant de faire autrement. Et à côté de ça, on a mes cousins qui sont de génération, on va dire un peu après moi, qui trouvent ça pas normal de nos jours. Le sujet en fait du rôle de la femme, c'est aussi quelque chose qui occupe une place majeure dans la société et aussi donc dans les élections présidentielles qui s'annoncent.
Et en effet, la Corée fait face à un vaste mouvement antiféministe. Les principaux responsables conservateurs réclament d'ailleurs la suppression du ministère de l'égalité des sexes.
Eh bien, dites-moi.
Eh bien, voilà.
Les élections, c'est le
9 mars. Et okay. Ça laisse donc un mois à Jae pour se mettre au courant et choisir pour qui va voter.
Assez sérieusement, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de le retrouver. Jae, vous revenez dans 15 jours et nous serons là pour le coup au Timor.
Ah oui, ça y est, avec des combats de coqs apparemment, des ambiances de combats de coqs.
Formidable, Caroline.
Merci.
Lundi dans 15 jours, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Sébastien Logénie et c'est maintenant. Ça nous change de l'ambiance feutrée. Nous sommes dans les rues de Freetown, la capitale du Sierra Leone, où une nouvelle drogue fait des ravages.
Oui, cette drogue s'appelle le Kush, K-U-S-H. C'est un mélange de matières végétales, de feuilles écrasées, réduites en poudre et mélangées avec toutes sortes de produits chimiques, comme l'acétone, qui change régulièrement. Ça ne coûte pas cher, ça se fume et c'est en train de supplanter d'autres drogues des pays plus pauvres, des pays pauvres comme le tramadol. Au Sierra Leone, nos confrères de la BBC viennent ainsi d'enquêter et estiment que près de 90% des admissions des hommes aux urgences psychiatriques du pays sont des consommateurs de Kush.
Kush, a new illegal drug high taking my country's youth to a dark place.
Voilà un extrait du documentaire extrêmement éprouvant, visible sur le site de la BBC. On y décrit, on y voit les effets secondaires de cette drogue qui sont terribles. Paranoïa, hallucinations, pouvant entraîner suicide ou meurtre. La police est aujourd'hui complètement débordée dans ce pays. Le Sierra Leone, l'un des 5 pays les plus pauvres au monde, où le revenu par an, par habitant, n'atteint même pas les $500. Mais cette drogue, il faut le dire, ne frappe pas seulement les pays pauvres. Depuis 5 ans, désormais, elle fait son apparition aussi dans les quartiers déshérités des États-Unis, notamment à Houston, au Texas, où la moitié des overdoses signalées par la police sont désormais attribuées à cette drogue.
Direction la Corée du Nord, cette fois, qui a trouvé la technique pour financer son programme nucléaire.
Ah oui, grâce au vol de crypto-monnaie. C'est un rapport de l'ONU qui l'affirme. Malgré les sanctions internationales depuis 15 ans, malgré l'isolement total du pays, le régime de Pyongyang parvient toujours à développer son arsenal nucléaire, ses capacités balistiques. Ces derniers temps, Kim Jong-un a testé plusieurs missiles, notamment un missile sol-sol à portée interne intermédiaire, 5000 km de portée potentielle, le plus puissant depuis 2017, provoquant la condamnation de tous les Occidentaux, États-Unis en tête.
The DPRK's January 30th launch.
On entend là Linda Thomas Greenfield, l'ambassadrice américaine à l'ONU. Le lancement, dit-elle, d'un missile balistique à portée intermédiaire est une escalade significative des récentes violations par la Corée du Nord de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité. Ça a pour objectif de déstabiliser la région encore davantage. Voilà ce qu'ont découvert les experts de l'ONU, c'est que le régime de Pyongyang a dérobé au cours des derniers mois plus de 300 millions de dollars de crypto-monnaie par le biais d'attaques informatiques. Des institutions financières, des bourses ont été piratées. La Corée du Nord a déployé des milliers de pirates informatiques aguerris qui visent des entreprises, des institutions en Corée du Sud et ailleurs dans le monde. Pyongyang a notamment soupçonné notamment d'avoir volé en 2016 quelques 80 millions de dollars à la Banque centrale du Bangladesh et en 2017 quelques 60 millions de dollars à une banque taïwanaise.
Au Japon, une série Netflix s'inspire des rapports parfois douteux entre médias et politiques.
C'est une série inspirée de faits réels et elle fait un carton. En anglais, ça s'appelle The Journalist et en japonais, Shimbun Kisha, deuxième série la plus regardée sur la plateforme américaine. Extrait de la bande-annonce, Shimbun Kisha suit les pérégrinations d'une journaliste prête à sacrifier sa vie pour faire émerger la vérité face aux compromissions du pouvoir, une sorte de baron noir ou de house of cards à la japonaise. Le système japonais y est dépeint comme totalement gangréné. Le pays, c'est vrai, est connu pour sa corruption généralisée. Shinzo Abe, par exemple, le premier ministre jusqu'en 2020, a été la cible d'une enquête qui l'a poussé à démissionner. Voilà, la série est tirée en partie de la vraie vie d'une journaliste nippone connue pour ses questions, ses enquêtes incisives, l'une des rares à oser bousculer les politiques. Les médias japonais mainstream, la grande presse comme on dit, perd chaque année en crédibilité. Ces grands journaux restent vendus à des millions d'exemplaires, mais leur ton trop respectueux des autorités ennuie de plus en plus, un ennui que les Japonais trompent chaque semaine en se jetant sur les tabloïds. Et ils ont maintenant cette série Shimbun Kisha pour assouvir leur désir de subversion.
Eh bien, merci beaucoup Sébastien Logeni. Bien sûr, à demain, vous partez avec Ayo, Down on My Knees. Vous pouvez vous relever, Seb.
De mes genoux. She was not the one who was there for you.
crying, I'm begging, please love me. I love you, I love you, I'm begging, please love me. I'm dying, I'm crying, please don't leave me. No, 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 no. Down on my knees, I'm begging.
Ayo, down on my knees sur France Inter. Sébastien Paour nous attend à Washington.
France Inter, un jour dans le monde.
I pledge to be a president who seeks not to divide.
L'Amérique de Joe Biden, encore un peu trumpienne cette semaine, Sébastien. Cette fois, c'est l'ancien vice-président qui parle de l'ancien président.
Oui, Mike Pence, n'est pas si fréquent de l'entendre. L'ancien vice-président est plutôt discret, mais vendredi dernier, il a pris le temps de répondre à son ancien patron, en effet, qui avait fait pression sur lui pour qu'il bloque la certification des votes. C'était le 6 janvier 2021 au Capitole. On connaît la suite. Discours donc de Pence la semaine dernière sur les terres de Trump en Floride, devant une organisation conservatrice qui s'intéresse aux droits et aux politiques publiques. Pence est à la tribune devant son prompteur et voilà ce qu'il répond à l'ancien président qui lui reproche depuis des mois de ne pas avoir empêcher Biden de lui succéder.
Le président Trump a tort. Je n'avais pas le droit d'annuler l'élection. La présidence appartient au peuple américain et au peuple américain seul. Et franchement, il n'y a pas d'idée plus anti-américaine que de croire qu'une seule personne peut choisir le président américain. Selon la Constitution, je n'avais pas le droit de changer le résultat de notre élection.
Voilà, le message est très clair. On se demande s'il a à voir avec les élections de mi-mandat qui se profilent en novembre, prélude à la prochaine présidentielle. Est-ce que Pence y songe lui aussi en se rasant? On verra. En tout cas, ce tacle à Trump arrive au moment où le Parti républicain fait le ménage dans ses rangs. Il était réuni la semaine dernière dans l'Utah. Il vient de sanctionner ces deux membres qui font partie de la commission parlementaire sur l'invasion du Capitole, Liz Cheney et Adam Kinzinger. Ils sont accusés de comportement destructeur pour la Chambre des représentants, pour le parti et pour le pays. Certains ténors, comme l'ancien candidat à la présidentielle Mitt Romney, disent que ces sanctions sont une honte pour le camp républicain vis-à-vis d'élus qui cherchent, dit-il, la vérité. Elles montrent, en tout cas, ces sanctions que Trump a encore beaucoup de pouvoir au sein du parti. Lui qui a la fille de l'ancien vice-président Dick Cheney en ligne de mire, il a annoncé il y a déjà plusieurs mois qu'il soutenait sa rivale à la primaire pour le poste de représentante du Wyoming.
Sébastien, tout autre chose, les Nations Unies ont récupéré Guernica.
Oui, la tapisserie qui reproduit le célèbre tableau de Picasso est de retour depuis ce week-end à l'entrée de la salle du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Ça faisait un an que ce manifeste anti-guerre avait quitté le bâtiment. La famille Rockefeller, qui en est propriétaire, avait demandé à récupérer la tapisserie alors qu'elle la prêtait depuis 35 ans. Les diplomates se demandaient depuis pourquoi, s'il fallait y voir le signe d'une perte de vitesse de l'institution. Ses dirigeants avaient regretté ce départ, évidemment. Le fils de Nelson Rockefeller met en avant une erreur de communication ce week-end dans un entretien au New York Times. Il dit que l'œuvre avait besoin d'un nettoyage. Il explique aussi qu'elle pourrait être prêtée occasionnellement à des musées pour des expositions aux États-Unis. En tout cas, Guernica est de retour à l'ONU dans le bâtiment qui a été construit sur un terrain donné par Rockefeller.
Et puis Sébastien, pour terminer, le premier membre noir du Congrès a maintenant sa propre salle à la Chambre.
Il s'appelait Joseph Rainey. Il a été élu de Caroline du Sud à la Chambre des représentants entre 1870 et 1879. Et il a effectivement désormais une pièce à son nom ici au Congrès à Washington depuis la semaine dernière. L'inauguration a eu lieu pour le début du mois de l'histoire noire qui va durer donc tout février. C'est Nancy Pelosi, la première femme présidente de cette chambre, qui a dévoilé cette salle avec un tableau, un portrait de Joseph Rainey. Il faut souligner que depuis son élection à Rainey, 175 Noirs américains ont servi en tant que représentants, en tant que délégués ou sénateurs. Et il y a encore aujourd'hui 20 États qui n'ont jamais eu de représentants noirs à la Chambre ou au Sénat des États-Unis.
Sébastien Paour avec nous depuis Washington. À lundi prochain, Sébastien, merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Jean-Marc, Emmanuel Macron se trouve donc en ce moment avec Vladimir Poutine à Moscou, au centre des discussions. On le sait, évidemment, c'est l'Ukraine. On en reparlera dans le journal de 19h. Et vous vous demandez ce soir si ce bras de fer entre Russes et Occidentaux autour de l'Ukraine ne va pas profiter d'abord à un troisième larron, la Chine. Et c'est votre monde d'après.
Xi Jinping et Vladimir Poutine côte à côte, souriants, détendus, avec une poignée de main franche et cordiale. C'est celle-là l'image la plus importante de ce début d'année. Autre ambiance que l'immense table qui sépare en ce moment, vous en parliez tout à l'heure, le président russe d'Emmanuel Macron. En pleine zone de turbulence internationale, les dirigeants chinois et russes ont donc fait cause commune après un long sommet de 3 heures vendredi dernier à l'occasion de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. C'est pas une nouveauté, les deux hommes se sont vus près d'une trentaine de fois depuis 10 ans, ils se donnent du « mon ami ». Mais l'axe semble plus solide que jamais. Les deux capitales ont même publié une déclaration commune sur leur vision partagée du monde de 2022. Pour faire court, un monde multipolaire où les régimes autoritaires sont un bon modèle et où le repoussoir, c'est l'Occident. Cet axe pèse lourd. Rappelons que nous parlons de deux membres du Conseil de sécurité de l'ONU, détenteurs de la puissance nucléaire. Sauf que cet axe est déséquilibré. Moscou a besoin du soutien politique de Pékin sur le dossier ukrainien, mais de son côté, Pékin ne se contente pas de faire affaire avec Moscou. L'ouverture des JO en a apporté l'illustration. Finalement, le boycott diplomatique des Jeux initié par Washington a un peu tourné au pétard mouillé. Et le président chinois a profité de l'occasion pour un vaste balai international avec la présence de près de 25 chefs d'État ou de gouvernement, pas seulement Poutine. Le Pakistanais Khan, l'Égyptien Sisi, l'Argentin Fernandez, le Polonais Duda. Xi Jinping fait passer un message simple, le leadership diplomatique, c'est moi.
Et il y a aussi un rapprochement économique, Jean-Marc, entre Pékin et Moscou.
Ouais, ça c'est le deuxième axe. Plusieurs accords commerciaux ont été signés lors de ce sommet Poutine-Xi Jinping. Le président russe était d'ailleurs venu avec son ministre de l'énergie et avec le patron du groupe pétrolier Rosneft. Moscou va fortement augmenter ses livraisons de gaz et de pétrole à la Chine. Et si dans l'hypothèse d'une dégradation de la crise ukrainienne, les Occidentaux prennent de nouvelles sanctions économiques contre la Russie, notamment sur le gaz, bah ça poussera un peu plus Moscou dans les bras de Pékin. On peut imaginer, par exemple, voir débarquer sur le marché russe les géants de la téléphonie chinoise, style Huawei. L'Union européenne a beau dire qu'elle a beaucoup de leviers économiques sur la Russie, elle prend aussi le risque d'ouvrir un boulevard aux Chinois. Soit dit en passant, les embargos économiques sont rarement très efficaces. Ils n'ont jamais fait tomber, je sais pas moi, les régimes cubains, iraniens ou nord-coréens. Sur le plan économique aussi, c'est donc la Chine qui tire les marrons du feu. L'endettement russe vis-à-vis des Chinois a déjà dépassé les 150 milliards de dollars et le développement des nouvelles routes de la soie ne va guère profiter aux Russes, d'autant que le projet chinois entend passer par les pays d'Asie centrale que Moscou regarde comme une chasse gardée.
Et il y a quand même, Jean-Marc, un terrain sur lequel Moscou conserve l'avantage sur Pékin, c'est le militaire.
Oui, mais la question c'est jusqu'à quand ? C'est vrai, le nombre d'ogives et de missiles détenu par la Russie est très supérieur à celui de la Chine, mais le budget chinois de la défense est aujourd'hui 4 fois supérieur à celui de la Russie. Autrement dit, la Chine rattrape son retard en développant notamment sa marine ou sa présence spatiale, vous savez, avec la station Tiangong, Palais Céleste, puis elle tire profit de sa coopération satellitaire avec Moscou. Puis le gros avantage pour Pékin de la crise autour de l'Ukraine, c'est qu'elle monopolise l'attention mondiale et en particulier occidentale. Du coup, plus personne ne regarde ailleurs, en particulier en mer de Chine méridionale, où semaine après semaine, l'air de rien, la Chine avance ses pions, îlot par îlot. Donc de ce point de vue également, l'affaire ukrainienne, c'est tout bénef pour la Chine. Enfin, dernier paramètre qui fait pencher le balancier côté chinois, la conviction de Pékin de sa supériorité. Moscou est dans une posture plus défensive. Xi Jinping lui est persuadé que le temps joue pour lui et que le modèle chinois va supplanter un modèle occidental dont le déclin est irréversible. Le risque pour la Russie en se rapprochant de la Chine, c'est donc d'en devenir le vassal, le petit frère. Vu comme ça, le volontarisme diplomatique d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine possède une vertu. Il a le défaut d'être isolé et moyennement coordonné avec Berlin, d'être animé d'arrière-pensée électorale, ok. Mais il a le mérite de dire à la Russie, au-delà de Poutine, que la Chine n'est pas le seul recours.
Jean-Marc Fauré, Le Monde d'après, merci beaucoup Jean-Marc. À demain, la suite c'est le journal de 19h et Hélène Philly.